Alors, il me disait juste avant que ça fait depuis 1976 qu'il est venu la première fois, donc ça, je pense qu'il y en a de nombreux parmi vous qui le connaissent. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, en deux mots, c'est un ancien ophtalmologue à la retraite, spécialiste de la rétine, chirurgie rétinienne. Et puis maintenant, depuis sa retraite, il se consacre beaucoup à l'écriture. Et puis, il a accepté de venir nous parler, nous partager un petit peu de ce que Dieu a mis sur son cœur. Alors je vais prier pour lui, prier pour ce message. Seigneur, je te remercie pour Étienne qui a accepté de passer du temps à étudier ta parole, à la méditer, pour ensuite venir nous la partager. Merci Seigneur pour ta parole qui est si belle et qui ne nous laisse pas indifférents, Seigneur. Et je veux vraiment te demander que tu touches chacun de nos cœurs à travers ce que va nous dire Étienne maintenant, que nous puissions nous laisser rejoindre par ton amour, par qui tu es, Seigneur. Amen.
Amen. Merci. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de voir d'autres frères et sœurs en Christ dans d'autres communautés et puis de réaliser que l'Église avec un grand E n'est pas limitée à notre petite communauté mais qu'elle est immense et recouvre toute la terre. J'ai choisi pour ce matin une petite parole de Jésus qui est assez particulière. Cette parole, c'est la suivante. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »« Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors c'est une parole assez étonnante parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui s'est fait dans le monde depuis quelques milliers d'années, eh bien on constate que beaucoup de choses magnifiques ont été faites, accomplies dans ce monde sans Jésus. C'est vrai, il faut être lucide. Alors, pourquoi est-ce que Jésus dit ceci? Pour le comprendre, il faut qu'on replace cette parole dans son contexte. Cette parole se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 5. Et si on regarde bien les chapitres 13 à 17, sont situés chronologiquement juste avant la mort de Jésus. Et en fait, Jésus est avec ses disciples. On est au dernier repas de la Pâque, jeudi saint, donc la veille de sa mort. Et si on regarde bien encore, Jésus prend la Pâque avec ses disciples et Judas a été démasqué. Et vous vous souvenez qu'il est parti. Et en fait, Jésus se retrouve seul avec 11 disciples. C'est 11 disciples qui vont devenir le noyau de l'Église après. Donc, on est dans un cadre extrêmement intime. Et ces chapitres pourraient être considérés, au fond, comme un testament que Jésus donne à ses disciples avant de s'en aller. Et en fait, de quoi est-ce qu'il leur parle? Il leur parle du royaume de Dieu. On a souvent l'impression que le royaume, au fond, c'est le royaume qui va nous attendre ou qui va nous recevoir une fois que nous serons morts et ressuscités. Mais vous vous souvenez que le royaume a déjà commencé lors de la venue de Jésus. On est déjà dans le temps du royaume. Alors j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour redire ce qu'est le royaume. Pour faire un royaume, il faut trois choses. Il faut d'abord un roi, il faut des sujets qui reconnaissent le roi comme tel, et puis il faut un territoire sur lequel vivent les sujets. Un roi, des sujets, et puis un territoire. Alors, le royaume de Dieu, eh bien c'est le même principe, il y a un roi Et vous savez que ce roi, c'est Jésus. Il a été nommé roi dès sa résurrection. Et l'Apocalypse nous dit qu'il viendra un jour où Dieu, où Jésus remettra le royaume à son Père. Mais pour le moment, dans ce temps de l'Église, eh bien Jésus est le chef du royaume. Et puis les sujets, eh bien c'est les chrétiens qui reconnaissent Jésus au fond comme leur roi. Et puis le territoire, eh bien c'est la terre sur laquelle nous vivons. Alors moi j'aime bien dire que le royaume au fond c'est une grande entreprise avec un patron, des ouvriers et puis la terre. Et les ouvriers sont là pour faire la volonté du patron. Et j'aimerais bien citer un texte qui est important, qui se trouve dans Matthieu. Jésus dit ceci, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc vous voyez que le fait de faire la volonté du patron est extrêmement important. À quoi sert le royaume ? Eh bien, c'est une entreprise divine, une entreprise qui appartient à Dieu et qui sert les intérêts de Dieu dans ce monde. Et comment fonctionne le royaume ? Eh bien, comme dans toute entreprise, le patron donne des ordres, il donne des directives, et puis les ouvriers sont censés écouter ces directives, écouter ces ordres, et puis les exécuter. Et c'est vrai que la communication entre le patron et les ouvriers est extrêmement importante, elle doit être constante. Et en fait, le verset que je vous ai cité, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », est placé dans un verset plus large que je vous donne maintenant. Jésus dit ceci, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'aime bien cette image du cep et des sarments, et vous savez que si on coupe cette connexion, eh bien, la sève ne peut plus passer et le fruit ne se fait pas ou bien il dépérit. Donc la communication, elle doit être constante. Il ne suffit pas de comprendre la volonté de Dieu et puis ensuite de foncer sans lui. Hein, souvent, on est plein de bonne volonté, on a compris ce que Dieu nous demande, et puis on fonce, mais comme si Dieu n'existait pas. J'aimerais vous donner un exemple. Imaginons que vous receviez un terrain, et puis vous décidez de construire une maison. Vous faites les plans avec l'architecte, vous placez la maison dans tel sens, vous décidez de la dimension, du nombre d'étages, etc. Tous les plans sont finis. Vous confiez l'exécution des travaux à un maçon et une entreprise. Et puis, voilà, vous partez en vacances et puis peut-être 2 mois plus tard, vous revenez et vous constatez que il y a des ouvriers qui travaillent dans la joie, ils sont pleins de bonne volonté, ils sont enthousiastes, ils sont vraiment sympathiques, mais ils n'ont pas placé la maison au bon endroit, l'orientation n'est pas celle que vous aviez prévue, ils ont changé une porte de place, ils ont rajouté une fenêtre, enfin ils ont modifié les plans. Qu'est-ce que vous allez dire ? Est-ce que vous allez dire, « Oh, mais ils sont sympathiques ces gens, on ne va quand même pas leur dire quelque chose, ils sont pleins de bonne volonté. » Non, moi je pense que vous allez plutôt être fâchés parce que ces ouvriers n'ont pas exécuté fidèlement les plans. Et c'est vrai que, je crois qu'il faut être lucide, on est souvent un petit peu comme ces ouvriers-là, on a compris quelque chose et puis on continue, mais sans Dieu, sans cette présence du Christ. Et puis, on dévie. Alors, comment être un bon ouvrier ? Eh bien, nous avons dans la Bible un modèle extrêmement fort et précis. C'est Jésus lui-même. Jésus a été l'exemple type de l'ouvrier parfait dans le royaume. J'aimerais parler de trois caractéristiques de Jésus en tant qu'ouvrier. La première caractéristique est la suivante. Jésus avait une excellente connaissance des Écritures. Et vous vous souvenez que déjà à l'âge de 12 ans, il était capable de discuter dans le temple avec les rabbins et sa connaissance des Écritures et sa sagesse émerveillaient les rabbins. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Et nous aussi, si nous voulons être des bons ouvriers dans le royaume, eh bien, nous devons comprendre quels sont les plans généraux de Dieu, quels sont les plans de Dieu pour l'humanité, pour la famille, pour le couple, pour le travail, pour la société, pour le gouvernement, pour enfin, toute l'organisation de la vie humaine. C'est important que nous, en tant que chrétiens, nous puissions comprendre ces plans-là. Et c'est pourquoi c'est important de lire la parole, de la lire et de la lire et de la méditer et encore de la méditer. Et je crois qu'on ne peut pas se passer de cette étude-là. Et je le dis surtout pour les jeunes, parce que maintenant, peut-être, on a tendance à privilégier, je dirais, les motifs, mais il ne faut pas oublier cette connaissance. Suivons l'exemple de Jésus. La deuxième caractéristique de Jésus, il passait du temps seul à seul avec son Père, et notamment lorsqu'il devait prendre des décisions importantes. Vous vous souvenez que lorsqu'il a choisi ses disciples, eh bien, il a passé toute la nuit à prier avant de les choisir. Et j'aimerais vous lire deux versets que je trouve extraordinaires. Le premier se trouve toujours dans Jean, au chapitre 5, c'est Jésus qui parle. Hein. « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » C'est incroyable. On se disait, mais si une personne qui peut être indépendante, c'est bien Jésus. Eh bien non. Jésus dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc il était en prière, il regardait ce que son Père voulait faire. Et en fait, Jésus a calqué toute son œuvre sur celle de son Père. Vous imaginez le degré de dépendance de Jésus vis-à-vis de son Père ? C'est incroyable. Un autre verset qui est toujours dans Jean, au chapitre 12, Jésus dit ceci, « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. » C'est impressionnant, hein? Donc Jésus a passé du temps dans la prière pour écouter ce que Dieu voulait qu'il dise. Alors ça remet en question tous ceux qui prêchent, tous ceux qui enseignent, tous ceux qui parlent, enfin nous tous finalement, puisque nous sommes amenés à parler, à être des témoins. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Vous voyez cette dépendance incroyable. Et le troisième point est le suivant. Jésus avait cette faculté d'être toujours à l'écoute du Saint-Esprit et de changer ses plans à tout moment. Je vous donne quelques exemples. Vous vous souvenez de cette discussion que Jésus a eue avec la Samaritaine. Jésus arrive, il est fatigué, c'est midi, il fait chaud, il a faim, et il aurait envie de se reposer. Et puis, certainement, le Saint-Esprit lui a dit, « Tu vois, il y a une femme auprès du puits, va, demande-lui à boire et parle-lui. » Et Jésus l'a fait. Et cette femme s'est convertie, et bien des gens de son village se sont convertis. Et Jésus a écouté la voix du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de l'histoire de Zachée. Jésus était dans la foule avec un brouhaha pas possible. Et puis certainement que le Saint-Esprit lui a dit, tu vois, là dans cet arbre, il y a un petit homme qui veut te voir. Eh bien, fais-le descendre et entre chez lui. Et Jésus a obéi. Il a appelé Zachée, il est allé chez lui. Et toute une belle discussion s'est faite, et une transformation s'est faite chez Zachée. Jésus s'est arrêté aussi pour guérir l'aveugle qui criait et qui l'appelait. Il s'est retourné dans la foule aussi pour parler avec une femme qui était venue le toucher en cachette. Donc vous voyez qu'à chaque instant, même quand il y avait du bruit, quand il y avait des stimulations de toutes sortes, Jésus était capable d'écouter le Saint-Esprit et de changer ses plans. Voilà trois caractéristiques de l'ouvrier modèle dans le royaume de Dieu. Et je crois que nous sommes amenés à suivre ce modèle. J'avoue que ce n'est pas toujours évident, et bien des fois on se plante, et moi le premier. Alors, on peut se poser la question, est-ce que nous voulons travailler dans le royaume de Dieu ou bien selon le monde? Souvent, on se fait des fausses idées sur ce que signifie travailler dans le royaume de Dieu. On a l'impression que c'est partir à l'autre bout du monde pour faire de l'évangélisation. Occuper un poste important dans l'Église, etc. Et moi, je crois que travailler dans le royaume de Dieu, eh bien, c'est assumer les responsabilités que le Seigneur nous confie dans la famille, comme père, comme mari, comme épouse, comme père, comme mère, grand-père, grand-mère. Nos responsabilités dans la famille, mais les assumer, pas tout seul, mais avec Jésus. Et cette communion est très, très importante. Assumer nos responsabilités dans notre travail, avec Jésus. Assumer nos responsabilités dans l'Église, avec Jésus. Assumer nos responsabilités dans la société. Parfois, nous sommes amenés à faire des choix importants, et c'est vrai que ce n'est pas facile de comprendre ce que Dieu veut. Parfois, on doit changer de direction. Et personnellement, dans ma vie, je me suis trouvé à plusieurs carrefours où je ne savais pas que faire. Et je crois qu'il est sage et bon de demander de l'aide auprès d'autres chrétiens. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. D'autres chrétiens m'ont aidé, j'ai reçu des prophéties. Et j'ai effectivement pu suivre ce que Dieu voulait que je fasse. Et c'est vrai qu'avec le recul, eh bien, je me dis ben, merci Seigneur pour ces frères et sœurs qui m'ont aidé à prendre la bonne direction. Et je suis très reconnaissant de la manière avec laquelle le Seigneur m'a guidé. J'aimerais terminer par ces mots. Les choix que nous faisons maintenant sont très importants. Travailler dans le royaume de Dieu, ce n'est pas juste voilà, une petite chose qui est réservée à une certaine élite dans l'Église. Mais ça nous concerne tous. Et les choix que nous faisons maintenant ont une portée éternelle. Et j'aimerais vous lire deux versets qui l'attestent. Deux versets tirés de l'Apocalypse. L'apôtre Jean décrit ce qu'il voit et il dit ceci « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Donc il ne suffit pas d'avoir la foi pour entrer dans le royaume de Dieu, mais nos œuvres nous suivent et nous serons jugés selon nos œuvres. Et puis un autre verset, c'est Jésus qui parle dans l'Apocalypse 22. « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Alors moi, je crois que il y a des œuvres qui ne feront pas le poids devant Dieu. Elles seront écartées. Peut-être qu'elles nous paraissent magnifiques, et peut-être qu'aux yeux des humains et du monde, elles paraîtront magnifiques. Et puis aux yeux de Dieu, elles n'auront pas de poids. Et puis il y a des œuvres qui auront du poids. Et je pense que ces œuvres, eh bien, ce sont les œuvres que nous aurons faites dans la volonté de Dieu et en partenariat avec Jésus. Voilà des œuvres qui auront du poids. Mais peut-être que ces œuvres, elles auront passé complètement inaperçues dans ce monde. Voilà. Peut-être qu'il y a plein de gens ici qui font des œuvres qui ont du poids pour Dieu, et puis on ne le voit pas. Mais l'important, c'est que ces œuvres aient du poids pour Dieu. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voilà, et bien que le Seigneur nous aide à tenir compte de cela et de nous souvenir chaque jour que nous sommes appelés à travailler avec Dieu main dans la main. Amen.